Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Et il fallait bien deux invités ce matin après cette soirée inouïe. Daniel Riolo, bonjour cher Daniel, vous êtes bonjour. Journaliste sportif à RMC. Emmanuel Petit, Emmanuel, bonheur de vous avoir ce matin, champion du monde 98, champion d'Europe 2000. Et voilà, cette fin terrible et cruelle, voilà les mots de Didier Deschamps. La fin est terrible, cruelle, la déception est tellement forte qu'elle prend le pas sur tout. Mais pas sur tout quand même, quelle épopée, non?
Oui, on peut être très fier du parcours des Bleus, mais ça laisse un goût amer quand même. Parce que si je me mets un tant soit peu, ne serait-ce que quelques minutes dans la peau des joueurs de l'équipe de France à l'issue du match, je me dis quand même, on a attendu une bonne heure avant de jouer cette finale. Donc la réaction a été sublime, ça a été époustouflant. On est tous d'accord pour dire ce qui s'est passé a été extraordinaire à regarder en termes d'émotion. Mais moi, je me mets à la place des joueurs, à la place du compétiteur.
Vous, vous pouvez vous mettre à la place des joueurs.
J'ai beaucoup de regrets quand même sur cette finale. Ouais.
Beaucoup de regrets sur cette finale, Daniel?
Oui, il faudra peut-être un petit peu de temps pour comprendre qu'on a assisté peut-être à la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde. La France, en disputant cette finale, en nous offrant ce suspense et ce lot d'émotions absolument incroyables, a écrit une page de l'histoire du football, non seulement français, mais du football mondial. Alors c'est sûr que après une telle issue, ça semble un petit peu difficile de tout de suite vouloir parler d'histoire, de ranger cette finale déjà dans l'armoire à souvenirs, parce qu'on est encore sous le choc de ce qu'on a vécu et de la déception. Mais dans quelques heures, quelques jours, je pense qu'il faudra tirer plus de positif que de négatif de tout ce qu'on a vécu à Doha pendant un mois.
Mais spontanément, Emmanuel, on sent chez vous presque une forme de tristesse, d'incompréhension, oui, d'amertume. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce début de match. On a attendu tellement longtemps avant de rentrer véritablement dans cette finale. D'ailleurs, quand on paraphrase un petit peu les propos de Didier Deschamps à la mi-temps,
il a cette phrase. Hein, je le cite. On n'avait pas toutes nos forces pour différentes raisons. Je cite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire quoi pour différentes raisons?
Je pense qu'il fait état des virus qui a frappé l'équipe de France, très certainement. L'accumulation de matchs aussi pour certains, mais c'est pas une excuse. Les Argentins aussi sont allés au bout. Ils ont été moins touchés, mais c'est vrai qu'il y a eu des virus. Maintenant, il y a un groupe de 25 joueurs.
J'ai du mal à comprendre cette histoire de faiblesse physique sur la prolongation et on va dire à partir de la 70e minute, d'un coup, les Bleus ont retrouvé leur force. Non, on peut pas ne pas avoir
c'est
de force
physique,
parce qu'on est malade.
Presque psychique. On a eu l'impression qu'ils se sont pris un mur.
On peut pas être vidé physiquement pour les différentes raisons évoquées par Deschamps, et puis d'un coup se réveiller, et puis petit à petit équilibrer la rencontre. Donc l'excuse ne tient pas. En tout cas, pour moi, c'est pas une justification. Je pense que ce qu'il faut dire, en étant tout à fait juste, même encore une fois, si ça peut sembler cruel, parce que quand on est nous le match, on le voit du côté des Français, donc forcément on est dans cette déception. Mais très honnêtement, hier soir quand on faisait l'émission, le match repassait, on était un petit peu retombé au niveau émotionnel.
Et donc là on peut le revoir avec cette attention accrue.
Mais on revoit quoi?
On
s'est fait bouffer
jusqu'à la 80e minute. Il n'y a rien, le néant total. Et qu'est-ce qu'on voit surtout? Que les Argentins sont largement au-dessus partout dans les duels, techniquement, tactiquement. Parce que je comprends que le grand public cherche à savoir pourquoi on n'était pas en forme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais les Argentins, ce matin, si on se met à leur place, ils analysent simplement que Scaloni, le sélectionneur argentin, a mieux préparé le match que Didier Deschamps, qui semblait infaillible jusque-là, qui semblait un petit peu le grand Manitou, celui qui trouve toujours la solution. Sauf que l'audace au coup d'envoi de la composition d'équipe offensive, c'est les Argentins qui mettent ça en place. C'est eux qui prennent le jeu à leur compte. C'est eux qui essayent d'avancer dans le terrain. C'est eux qui, dans tous les duels, mettent un impact. C'est pour ça peut-être
qu'on a l'impression que nos joueurs sont sonnés dès le début.
Oui, parce qu'ils se font rentrer dedans. Ils se font rentrer dedans.
Ils étaient prévenus, parce que les Argentins jouent de la même manière en quart et en demi. Et ils ont été un rouleau compresseur avec une structure tactique très rigoureuse et surtout avec un panache et une volonté déconcertante, parce que des fois, ça frôlait même des fois l'agression sur certains
matchs. Agressif, dur.
Très agressif.
C'était violent.
Oui, mais on sent qu'il y avait une attente depuis trois décennies quasiment, plus du côté argentin.
Est-ce que ça veut dire que nos joueurs n'avaient pas assez faim? Quand on rentre sur le terrain, Emmanuel Petit...
Non, ils avaient faim. C'est pas là la question. Moi, je pense qu'ils étaient en mission, tous les joueurs. Quand on voit justement comment ils ont fêté le titre avec Messi à la fin du match...
Quand on dit en mission, il y a presque quelque chose de spirituel.
Ils idolâtrent leur star Messi. Et il y a beaucoup de joueurs, quand ils étaient jeunes, faisaient des photos avec lui. Donc vous vous rendez compte, jouer une finale de Coupe du Monde avec lui, donc d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on sentait vraiment que tout le monde avait à cœur de lui donner ce trophée qui lui manquait terriblement. Oui,
mais attention, le Messi au sens propre du terme. Oui,
attention, parce que ça peut inhiber ça. Mm. Ça aurait pu, d'ailleurs, au début de la Coupe du Monde, on disait que la surcharge émotionnelle allait être trop importante pour les Argentins. Et on se souvient de leur tout premier match contre l'Arabie Saoudite, ils ont perdu. Mm. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Ils ont su, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de les mettre en avant, oui, et de souligner aussi leur performance. C'est qu'ils ont
réussi à les images,
réussi à
les images tout ça. Qu'on voit de la liesse qu'il y a à Buenos Aires, vous voyez sur BFM TV, c'est inouï.
Ah oui, absolument. Sincèrement, on est tous d'accord pour dire qu'ils méritent leur victoire, hein, les Argentins. Donc, quand on voit la liesse derrière, j'aurais aimé que ça soit sur les Champs-Élysées.
cet échec au tir au but, les Champs-Élysées, d'ailleurs, il n'y aura pas, hein, je le dis précisément, ouais, puisqu'on vient d'avoir l'information. Il y avait eu un petit moment de doute, est-ce qu'il fallait descendre les Champs-Élysées ou pas. Honnêtement, ça aurait été un peu étrange de se réjouir de la deuxième place. Ils seront quand même, ils auront un contact, oui, avec le public, puisqu'ils seront place de la Concorde tout à l'heure. Ils devraient arriver à Paris aux alentours de 18h. Perdre au tir au but, c'est particulièrement douloureux après cette remontée inouïe.
Les tirs au but, c'est toujours la loterie.
Ah non, pitié, ah, Manu, pas toi.
Non, sincèrement, sur le plan émotionnel.
Bah donc, c'est pas une loterie. Si c'est un plan émotionnel, c'est surtout pas une loterie.
Non, je suis d'accord.
Alors, Emmanuel.
Non, mais parce que c'est un geste technique que tout le monde peut faire. C'est très, très facile. Le souci, c'est que quand vous approchez du point de pénalty, vous enfoncez dans la pelouse.
Donc, ça n'est pas une loterie.
Oui, mais sur le plan émotionnel, ça peut être une loterie dans la mesure où, en fonction des caractères des personnalités, on n'arrive pas
on
justement.
On peut être un excellent joueur et
exactement,
tout d'un coup, comme
exactement,
ça s'est passé hier.
On en a vu hier. En fait, le scénario du match n'a pas bénéficié à l'équipe de France dans la mesure où on sort certains joueurs qui sont quand même déterminants dans une série de pénalty. On n'avait plus Giroud, on n'avait plus Griezmann, on n'avait plus ces joueurs-là. Quand on voit justement les changements de Scaloni à quelques minutes de la fin dans les prolongations,
il fait rentrer
Dybala.
On
sent qu'il prépare déjà les pénaltys. Donc on n'a pas été dans les bonnes dispositions à ce niveau-là.
Peut-être parce qu'on espérait qu'on allait échapper aux pénaltys jusqu'à la dernière seconde. Peut-être pêcher un peu d'orgueil, Daniel Riolo.
Non, vraiment, dans la prolongation, on s'est même dit à un moment que le côté invincible des Bleus allait revenir avec cette occasion à la dernière seconde de Kolo Muani. Cette occasion, elle est folle, et l'arrêt du gardien argentin, absolument incroyable. Après, dans la séance des tirs au but.
Donc, c'est pas une loterie.
C'est là qu'on a
vu.
Non, surtout pas.
Pour moi,
il
oui,
y a une vraie
c'est
préparation.
Toujours une loterie pour moi.
Il y a une vraie préparation.
Un côté quand même roulette russe.
Tu balances une pièce.
Ah, non, mais attendez, excusez-moi, mais vraiment, il faut absolument arrêter avec ça. C'est un combat entre un tireur et un gardien. Il y a un degré de psychologie, de préparation mentale pour ça. Il y a surtout un travail en amont. Le gardien argentin part toujours du bon côté. Il a travaillé. Vous avez en face une équipe qui ne prépare pas l'exercice, et Deschamps l'a même dit que ça ne servait à rien de le faire. C'est une erreur, c'est une grosse erreur.
Il y a une stratégie. Lloris n'est pas prêt.
Parce qu'en France, on ne le prépare pas. Pourquoi il y a autant d'échecs dans les séances de tir au but avec les Français? La dernière fois qu'un gardien a arrêté, c'est en 98 contre l'Italie en quart de finale, où il y a eu un arrêt de gardien. C'est quelque chose qu'on ne prépare pas. Parce qu'on veut pas le faire. À un moment, ça se paye.
Dans le regard d'Emmanuel Petit,
ça peut pas être
une tendresse pour les joueurs.
Il a son avis, Daniel.
Non, mais ça peut pas être une loterie. À partir du moment où il y a des bons gardiens sur les pénaux, il y a des mauvais gardiens. Lloris, c'est pas un bon gardien sur les séances de tir au but. C'est pas un bon gardien. Il n'en chope jamais une. L'Argentin part toujours du bon côté.
Non, mais vous pouvez être le meilleur tireur au monde. Si sur le plan émotionnel, il n'aurait pas géré justement cette qualité, vous pouvez rater votre pénalty.
Mais Manu, tu te contredis puisque tu dis que le plan émotionnel peut te rattraper. Donc ça n'est pas une loterie.
Justement, parce qu'il y a des grands joueurs parmi les meilleurs justement dans l'histoire du football qui ont raté des pénaltys. Donc ça veut dire que c'est la loterie.
Est-ce que Hugo Lloris, à ce moment-là, vous a déçu?
Il n'a pas été déterminant. Il a rarement été déterminant sur les pénaltys. Pourtant, il en arrête un peu plus souvent en Angleterre. Par contre, Martinez, le gardien de but argentin, l'année dernière, en Copa América, il s'était distingué déjà en arrêtant 3 pénaltys.
Il est préparé.
Donc, il était préparé.
Il y a des gardiens qui sont comme ça, qui adorent, ils savent justement où tirent où vont mettre le ballon les tireurs. Mais même, vous avez des tireurs aujourd'hui qui savent. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Et c'est là où je te dis que c'est la loterie. En 98, Youri Djorkaeff n'a pas voulu tirer contre l'Italie parce que c'était son coéquipier en club et il savait exactement comment il tirait les pénaltys. Donc quelque part, tu te dis...
Donc ça n'est pas une loterie, c'est une préparation.
Oui, mais tu peux très bien tirer où tu veux dans le but, ça veut dire par là, c'est que... Mais oui.
On vous mettra pas d'accord là-dessus.
Non, mais c'est peut-être la définition du mot loterie, on en reparlera après, mais en fait, tu es d'accord avec moi.
Si,
mais bon, c'est pas grave.
Il n'y a pas de hasard, en fait.
Il n'y a pas de hasard.
Daniel Riolo, Emmanuel Petit, ils étaient héroïques ils ont fini par être héroïques. Et un joueur sur lequel j'aimerais quand même qu'on s'arrête, c'est Mbappé. C'était à la hauteur, d'ailleurs, on l'a vu, la tristesse, la solitude d'Mbappé à la fin du match. Cette solitude, ce regard vide, cet homme vidé d'y avoir cru, d'avoir tout donné, mais de s'être réveillé si tard.
Mbappé, ce qu'il fait hier soir, les trois buts dans une finale, ce qui était arrivé une seule fois en 66, c'est un exploit ahurissant. La Coupe du Monde de Mbappé, le niveau de ce joueur, je pense qu'on a du mal à le mesurer. Et hier soir, j'ai eu une sorte de révélation en le voyant aussi fort mettre les trois buts dans un match où vous êtes écrasé, où pendant 80 minutes, vous ne voyez pas le jour. Logiquement, le match, il est fini. Il n'y a pas de match, tellement on est en dessous des Argentins.
Il n'y a plus de match.
Et l'homme qui permet cette fin de soirée complètement folle, l'homme qui permet à ce match d'entrer dans l'histoire, c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du collectif.
Et quand
quand je parle de révélation, c'est que je me dis que finalement, depuis la Coupe du Monde 2018, l'homme qui, à mon sens, et c'est peut-être dur à entendre, mais cache toutes les carences de notre jeu collectif, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui, il y a 4 ans, déjà dans un match contre l'Argentine en 8e de finale, nous permet la qualification. Parce que sans lui, j'ai repensé à ce match, je me suis dit, mais toute l'aventure qu'on a vécue, on ne l'aurait jamais vécu. C'est Mbappé, finalement, qui sert de bouclier à la pauvreté du jeu qu'offre Didier Deschamps depuis 5 ans.
C'est dur.
Non, c'est pas
c'est
dur.
C'est trop dur, non, Emmanuel?
C'est Daniel.
C'est Daniel Riello. Emmanuel Petit.
Non, je peux pas être d'accord avec Daniel. Parce que...
Sur Mbappé, si t'es d'accord, c'est un joueur
sur
hors,
Kylian,
du commun, hors du commun.
Mais sur le côté arbre qui cache la forêt, non.
Exactement, non. Non, mais après, dans le jeu, il y a toujours le combat entre les pragmatiques et les romantiques. Je suis d'accord. Et je rejoins Daniel, ce qu'on pourrait faire mieux quand même des fois, mais en même temps, quand on a un accès à autant de finales, on se dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de nous battre et de nous mettre en difficulté. Donc quelque part, je me dis que bon, on est plutôt bien servi avec toute cette génération et moi.
Cette nouvelle génération,
oui,
aussi.
Et là, on n'est pas d'accord non plus.
Et c'est là qu'il y avait deux matchs presque. Mmh. Il y a eu le premier match avec les historiques,
oui.
Et il y a eu la deuxième partie avec le réveil
jeunes.
Des jeunes qui arrivaient, non?
Avec l'insouciance, on avait été déçus contre. Exactement, on avait été déçus contre sur le match de la Tunisie où il y avait un énorme turnover et on avait été déçus de beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que ça a changé la donne. Il y a eu des bons coachings, un bon coaching aussi de la part de Didier Deschamps. Ça a amené une nouvelle impulsion. Mais Kylian est un extraterrestre. Il nous habitue à l'extraordinaire.
Il le banalise
en permanence. Et c'est ça que le danger, on ne doit pas rentrer là-dedans parce qu'on doit toujours se rendre compte des choses incroyables qu'il fait en permanence sur le terrain.
Mais c'est presque surnaturel. Alors il y a eu cette scène de Kylian Mbappé, donc je le disais, dans cette espèce de solitude, ayant même l'air de vouloir vivre ce moment seul. Et Emmanuel Macron qui vient quand même le consoler. On se demande même, on a presque envie de dire à Emmanuel Macron, attendez un tout petit
peu. J'ai cru qu'il était sélectionneur.
Ouais. Trop, non?
Enfin, je sais pas, un peu trop, oui. Un peu too much, ouais.
Ouais, je veux bien qu'il soit passionné et dans un premier temps, ça peut même faire plaisir à ceux qui aiment le foot. On a un président qui aime le foot et qui s'y connaît incontestablement. Mais à la fin, sa volonté d'occuper l'espace en permanence, c'est presque devenu un peu lourd quand même qu'il aille consoler Mbappé une fois, ok, mais il était toujours derrière lui. Alors Mbappé a été le héros malheureux de cette finale et on a bien compris que Macron voulait être à côté du héros de la finale, être sans arrêt présent, être quasiment sur, je sais pas si t'es mis d'accord avec le réalisateur, mais on a l'impression qu'il avait envie d'être sur tous les plans à chaque fois. C'est un peu exagéré. Et puis attendez, il y a pire. Il peut donner son avis, mais il
n'arrête
pas. Non, mais il n'arrête pas sans arrêt de s'impliquer et de dire j'ai demandé à Didier Deschamps de rester. J'ai demandé déjà qu'il avait œuvré pour que Mbappé reste au PSG. Bon, d'accord, les supporters du PSG ont le droit d'être contents de ça. Mmh. Non, mais après, en équipe de France, et j'ai envie que Deschamps reste. Mais il y a peut-être beaucoup de supporters en France qui se disent ce serait pas mal que Zidane prenne l'équipe de France et qu'on voit autre chose. Et puis j'ai envie de dire à Emmanuel Macron. Plutôt que de s'occuper de savoir si Deschamps doit rester, il devrait plutôt s'occuper de savoir si Le Graët doit pas partir.
Voilà.
Parce que le président de la Fédé a un audit sur le fonctionnement de la Fédé en cours, dont on connaîtra les conclusions mi-février. Il a évidemment, en bon politicien qu'il est, cherché à se cacher derrière les résultats de l'équipe de France. Bon, il va peut-être falloir maintenant ouvrir les yeux et j'attends d'Emmanuel Macron qui sera l'homme qui pourra mettre un petit peu de pression parce qu'on a vu que la ministre des Sports a beaucoup de mal à elle mettre la pression.
Elle a eu beaucoup de mal à mettre sa pression alors qu'on sait que les deux
sont. Et elle a été méprisée, elle s'est fait bâcher au moins 2-3 fois pendant cette Coupe du Monde par le président de la Fédé qui, je trouve, a été absolument odieux avec elle. J'espère qu'Emmanuel Macron, plutôt que de s'occuper des consolations et de donner son avis sur qui doit être le sélectionneur, il s'occupe de ce qui doit fonctionner. La 3F, qui est quand même une délégation de service public et qui dépend du ministère de la
Emmanuel, il faut que Le Graët parte.
Ça
c'est évident.
Et que
Didier Deschamps reste.
C'est dans cet ordre, oui. Parce que moi, je suis. Alors là-dessus, je pense qu'on va pas être d'accord encore, parce que
On pourrait passer après 10 ans. Je pense qu'on pourrait dire au revoir et merci, félicitations.
Emmanuel.
Oui. Non, mais moi, je suis pas un ami de Noël Le Graët. Hein, je veux dire, il le sait publiquement. J'arrête pas de le dire. En revanche, je soutiens. Didier Deschamps dans sa fonction, je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. Je pense qu'il va lui les fêtes de fin d'année vont lui faire un plus grand bien. Il va se régénérer comme beaucoup de joueurs. Il prendre sa décision, mais encore une fois, je sais que Daniel et d'autres souhaiteraient qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Moi, je sais pas si c'est français, qu'à chaque fois qu'on veut que quelqu'un parte, comme lorsqu'on va en finale en permanence.
Non, mais Manu, ça fait 10 ans, c'est pas qu'on veut le sortir juste quand même, enfin, ça fait 10 ans, on pourrait initier une nouvelle aventure, d'autant que, on le sait très bien, des problèmes vont commencer à
produire. Et tu mettrais qui alors? Zizou?
Oui, il est, pourquoi pas, après tout.
Mais l'argument, en fait, c'est le temps, c'est que ça?
Ben, c'est le temps et je pense une certaine usure. D'accord. Au niveau du jeu aussi. C'est-à-dire le nombre de fois quand même depuis 4 ans où à chaque fois que les Bleus gagnent un match, on se dit oh quel miracle.
Bah, je vois les yeux aussi
on cherche à repousser l'âge de la retraite et là on demande à Didier Deschamps après 10 ans et on est en
super. Mais il est cohérent là-dessus Emmanuel.
Non, mais on a le droit.
Je suis d'accord, mais
on a le droit de voir un autre style, on a le droit de passer à autre chose. Les matchs gagnés contre l'Angleterre, c'est un miracle. Contre le Maroc, on est encore dominé.
Mais contre l'Argentine, on va quand même jusqu'à l'extrême dernière seconde, ça nous a fait rêver.
Et qui dit
qu'on ne rêvera pas. Je suis plutôt Tim Emmanuel.
Et qui dit qu'on ne rêvera pas avec un autre sélectionneur et avec
c'est
une autre façon
vrai,
de jouer.
Mais on sait
puis,
ce qu'on perd.
Si vous permettez juste d'un point de vue politique, je suis désolé, mais si on demande le départ de Noël Le Graët, et je pense que l'audit sera accablant pour lui, Didier Deschamps fait partie de ses plus fidèles soutiens. Et dans plusieurs interviews, il a nié les dysfonctionnements de la Fédé, qui, je le rappelle, virent au harcèlement moral, voire harcèlement sexiste.
Ouais, mais
Didier,
on n'est pas responsable.
Non, mais d'accord, mais à partir du moment où on le soutient.
Il ne
sait pas écrire
de SMS. Hein.
À partir du moment où
on a tous un peu des doutes, quand même.
Noël Le Graët, oui, il passe les matchs entiers en tribune à envoyer des SMS, mais après, il dit qu'il ne sait pas.
Mais après, il dit que ça ne peut pas être lui, puisqu'il ne les a pas envoyés. Voilà. Cette idée du Covid, malgré tout, j'y reviens parce que c'est vrai que c'est un peu la rumeur qui court. Il n'y a pas eu de test, donc comme il n'y a pas de test, on peut pas dire qu'il y a eu Covid. C'est un peu hypocrite quand même d'avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas? Est-ce qu'il y a un morceau du puzzle qu'on va découvrir plus tard pour essayer de comprendre?
Il y a pas mal de choses quand même assez nébuleux. Le cas déjà de Karim Benzema avant cette Coupe du Monde.
Ça va faire partie des dossiers qui feront parler dans le mois qui va venir.
Oui,
ça,
parce c'est que certain. Je pense qu'il y a des zones d'ombre.
Ça veut dire quoi des zones d'ombre?
Bah, on n'a toujours pas compris son départ.
Considérant que l'équipe de France est peut-être programmée pour aller au moins jusqu'en quart, on aurait pu prendre le pari aussi de garder Karim et de le soigner. Après, je ne sais pas ce qui se passe au sein même de l'équipe de France, mais ça me semble un peu nébuleux tout ça. J'ai pas envie de faire de polémique, mais quand on voit un petit peu les communications qui a eu ces derniers jours.
Très énigmatique, encore une
très
fois.
Énigmatique.
Son post sur Instagram.
J'ai pas tellement aimé de sa part, je vous le dis franchement.
De ne même pas s'y intéresser.
La veille de la finale, j'aurais préféré autre chose.
On va dire quand même.
Daniel, vous l'avez compris comment vous?
Tout ce qu'il a mis en ligne sur ses réseaux depuis le début de la Coupe du Monde est pour le moins
énigmatique,
problématique, polémique. Il a fallu attendre la demi-finale pour voir un message de soutien. Le message de soutien suivi immédiatement d'un message très nébuleux sur ça ne m'intéresse pas. Alors peut-être il nous dira qu'il ne parlait pas de foot, mais enfin.
Oui, personne ne peut imaginer qu'il ne parlait pas de foot.
Mais
ça ne m'intéresse pas avec ce regard baissé comme s'il ne regardait pas.
Nous, ce qu'on sait, alors évidemment, les Bleus sont allés en finale, donc on peut dire, bon, après tout, on s'en est sorti sans lui, comme on s'en est sorti en 2018 sans lui.
Est-ce qu'on s'en est sorti sans lui ou est-ce qu'on s'en est mieux sorti sans lui?
Voilà. On peut se dire aussi que dans un match comme hier, un joueur Ballon d'Or, soigné, puisque à mon avis, dès le match de Danemark, il aurait probablement pu jouer un petit peu. Bon, je suis dans l'idée qu'il s'est passé quelque chose.
Il a repris l'entraînement.
Il y a certains joueurs, on le sait, il y a certains joueurs qui n'ont pas été mécontents de son départ, parce que ça leur a donné plus de place dans l'équipe.
Il y avait une forme presque de duel.
Il y avait des inimitiés avec Giroud, avec Griezmann, il y a des joueurs, je le répète, qui n'étaient pas mécontents de le voir partir. La façon dont il est parti en pleine nuit, on lui prend un avion à 6 heures du mat. Ok, il est blessé, mais il a pas la gale quand même. On peut le garder un peu plus longtemps quand même.
Moi, je veux pas parler du cas de Karim Benzema. J'ai plutôt envie justement de parler du parcours de l'équipe de France. Les absents, je veux dire, ils ont été nombreux dans cette Coupe du Monde. Donc, sincèrement, parler de Karim Benzema, je pense qu'il y aura le temps nécessaire pour en parler. Et je pense qu'il y a des choses qui vont fuiter.
Et ceux que vous regardez.
Mais je préfère me concentrer sur ce qu'ont fait les Bleus au Qatar. Et franchement, moi, ils m'ont rendu fier, même si j'ai beaucoup de regrets pour la finale.
Ils nous ont rendu extrêmement fiers.
Absolument. C'est une épopée incroyable et une finale qui restera dans la légende.
Magnifique et finale légendaire. Merci à tous les deux.
Merci.
Emmanuel Petit, Daniel Riolo, merci à tous les deux ce matin d'avoir revécu ensemble ce match de légende.